Bonjour, toujours en direct du Conseil d'État à l'occasion de ces rencontres des acteurs publics, en direct de cette magnifique salle d'Assemblée générale du Conseil d'État qui est vaste, grande. C'est pour ça qu'on peut peut-être se permettre par moment de ne pas mettre le masque. Nous sommes aussi très espacés sur ce plateau. Nous avons le plaisir de recevoir le président de l'Assemblée nationale. Bonjour Richard Ferrand.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous entendre sur la question de l'évaluation des politiques publiques, car le Parlement, l'Assemblée nationale, vote la loi, certes, mais contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques. C'est, je cite là, l'article 24 de la Constitution. Si vous deviez évaluer l'évaluateur Assemblée nationale, quelle note lui mettriez-vous ?
Écoutez, je ne peux pas à la fois évaluer conformément à la Constitution.
Un évaluateur indépendant, donc.
Voilà, c'est un peu compliqué. Non, ce que je dois dire, c'est que les parlementaires, et singulièrement les députés, ont tout à fait à l'esprit l'article de la Constitution que vous venez de citer. C'est-à-dire qu'ils ont tous bien compris que l'évaluation des politiques publiques faisait partie du trépied qui fondait leur fonction avec le vote de la loi et le contrôle de l'action du gouvernement. Donc ce n'est pas vécu comme quelque chose de secondaire. J'ajoute que sous cette législature, on a clairement démontré que ce n'était pas simplement une vague compréhension, mais que c'était une volonté d'agir. Et de nombreux parlementaires se sont saisis de cela en se disant au fond que cela procédait aussi de l'équilibre des pouvoirs. Parce que le Parlement et l'Assemblée nationale ne peuvent pas être dans un dialogue nucléaire, si je puis dire, avec le Parlement, où l'exécutif aurait l'arme de la dissolution et l'Assemblée nationale l'arme de la censure. Donc il faut bien que cet équilibre des pouvoirs se traduise par une évaluation des choix et avec la volonté que, au fond, ce qui doit être corrigé puisse l'être, ce qui doit être amélioré puisse l'être aussi. Mais l'Assemblée nationale, je veux le signaler, a produit entre 2017, début de la législature, et aujourd'hui, 145 rapports, un par semaine, consistant en effet à évaluer tel ou tel choix de l'exécutif et chaque fois à faire des propositions. Donc je me dis que si votre demande de notation procédait du travail fait, elle serait sans doute très favorable. Si votre demande de notation procédait de l'utilisation qui est ensuite faite de ces rapports pertinents, votre appréciation serait sans doute moins favorable, mais elle ne porterait pas alors sur les députés.
Bien sûr, on a bien compris. La période actuelle rend peut-être plus indispensable encore l'évaluation des politiques publiques. On pense bien sûr à la politique de santé, d'éducation, à l'évaluation des aides, notamment économiques, aides à l'emploi, etc., qui ont été accordées à l'occasion de cette crise qui, hélas, se poursuit. Si on devait voir une chose positive peut-être à cette période-là, c'est que ça va accroître la demande d'évaluation et peut-être faire progresser la culture de l'évaluation dans notre pays. Il faut peut-être le souhaiter dans cette période.
Ah, il faut souhaiter évidemment qu'on puisse mesurer au plus près et dans le bon délai, parce que certaines politiques ne produisent que des effets positifs qu'à moyen terme ou ne sont véritablement évaluables qu'à partir d'une certaine période. Mais quoi qu'il en soit, cette culture est, je ne sais pas s'il faut dire, est acquise. En tout cas, elle est bien à l'esprit des parlementaires. Elle doit pouvoir progresser, mais il faut aussi regarder dans quel état d'esprit cela est fait. Vous voyez, si je prends quelques exemples de rapports parlementaires, l'avantage, c'est qu'ils sont toujours conduits par des députés de l'opposition et de la majorité, qu'ils débouchent sur des propositions, et ils permettent d'aborder à froid des sujets qui, sinon, tombent rapidement dans la joute parlementaire ou dans la polémique médiatique. Donc, ce qui, moi, me paraît important, c'est de se positionner dans une logique de construction, rendre les choses accessibles à tous et faire en sorte que l'on évalue pour aider au pilotage, pas pour contribuer au pilonnage. C'est pas la même chose. Évaluer pour pilonner, ça n'a aucun avenir. Parce que chaque gouvernement ou chaque administration comprendra que finalement, les investigations sont menées pour combattre politiquement un choix. Donc l'idée qu'il faut objectiver de bonne foi, avec honnêteté intellectuelle, ça permet à la fois à la majorité d'exprimer parfois des regrets, parfois des suggestions pour améliorer les choses, et ça permet à l'opposition, à l'inverse, parfois, de saluer la pertinence d'un choix qu'elle a pu ne pas approuver, ou au contraire, trouver une confirmation de ses réticences ou de son opposition lors du vote. Donc, c'est un exercice, finalement, de sagesse démocratique. Mais le fait que ce soit assez peu connu montre que c'est l'intensité même du travail des parlementaires qui n'est pas connue. Les Français connaissent les questions au gouvernement, qui sont aussi une séance de contrôle, connaissent la défense des amendements, parce que les réseaux sociaux, les médias en discutent, tel ou tel groupe se déchire sur tel ou tel amendement, dont on oublie d'ailleurs le contenu à la fin de l'article que l'on vient de lire. Et simplement, on ne voit pas ce travail qui est fait dans chaque commission permanente, 145 rapports d'évaluation, je vous le disais, mais aussi dans le comité d'évaluation qui, lui, spécifiquement nommé, travaille sur des questions transverses, c'est-à-dire qu'il ne relève pas directement des commissions permanentes. Mais donc, au total, ce travail est fait. Là où il nous faut, je crois, aujourd'hui trouver des marges de progression, c'est sur la coordination des travaux d'évaluation qui sont faits, évidemment, par le Parlement, mais aussi par la Cour des comptes, aussi par France Stratégie, aussi par le Conseil d'État, aussi par toute une série d'organismes, c'est-à-dire, à un moment donné, coordonner tous ces savoirs acquis, les synthétiser, les confronter, et ensuite faire en sorte que des propositions portées par tous soient clairement soumises à l'attention du gouvernement. C'est là, je crois, où l'évaluation sera mieux connue, parce qu'on pourra mieux en saisir les faits concrets, les faits réels.
Est-ce que les députés ont envie de consacrer du temps à l'évaluation ? Il y a une nouvelle génération qui est arrivée à l'Assemblée en 2017. Est-ce que vous avez senti évoluer les choses, c'est-à-dire que des députés peut-être ont plus d'appétence pour cet exercice qui peut être parfois un peu ingrat, moins médiatique, moins intéressant médiatiquement, parce que c'est un travail de long, vous parliez du travail en commission. Est-ce qu'ils ont vraiment envie, les députés, ou tout simplement, un peu comme nous le disait tout à l'heure Christine Lavarde concernant le Sénat, ils n'ont pas vraiment le temps, parce qu'ils légifèrent beaucoup.
Alors, ma collègue sénatrice avait raison de dire qu'il y a un enjeu de temps, puisque entre le travail en commission pour légiférer, dans l'hémicycle, et ensuite le travail sur le territoire, bon, il reste moins de temps. Mais cela étant, je ne parle là que pour l'Assemblée nationale. Beaucoup de députés, notamment des nouveaux arrivants, si je puis dire, les primo-députés, comme l'on dit, mais qui sont très largement majoritaires, et d'ailleurs dans tous les groupes, découvrent que la Ve République, finalement, n'est pas très propice à l'imagination législative des députés, puisque la maîtrise de l'ordre du jour est celui du gouvernement, que le gouvernement n'accueille qu'avec beaucoup de réticence des amendements et autres. Et certains ont eu parfois un sentiment qui ressemblait un peu à du dépit, du temps du cumul. On rentrait dans sa commune ou son département et après tout, on venait faire la majorité ou l'opposition. Mais on était moins investi peut-être par toutes les tâches qui incombent à un député. Donc aujourd'hui, une des réponses à une relative frustration, a été précisément de s'investir dans ces enjeux d'évaluation et de contrôle du gouvernement. Et encore récemment, un parlementaire, M. Perea, venait me dire, c'était la semaine dernière, combien il jugerait pertinent que, autour de cette idée d'évaluation qui prend des grands thèmes, des grands chiffres, des grandes politiques, que l'on puisse y compris intégrer une dimension local dans un certain nombre de choses. Il prenait l'exemple de la loi Littoral, qui est un sujet souvent évoqué, y compris ici au Conseil d'État, parce que ce n'est pas une loi qui suscite l'indifférence. Et il disait qu'au fond, il constatait, parce qu'ils avaient des échanges entre parlementaires, qu'il y avait parfois, semble-t-il, des modes d'interprétation et d'application qui pouvaient varier selon que l'on était dans le Morbihan, dans le Finistère, dans en Vendée ou plus au sud sur la Méditerranée, et que par conséquent, il trouvait aussi intéressant de regarder comment la loi a été mise en œuvre par les administrations alors qu'on avait le sentiment d'avoir voté la même loi pour tous. Et voyez-vous, ce parlementaire disait qu'il fallait intégrer une mission, y compris locale, dans la pratique de l'État, de la mise en œuvre des textes que nous votons ou que nous modifions. Et donc il y a une volonté non seulement d'évaluer, mais aussi de donner une dimension territoriale à cette évaluation, selon évidemment les thèmes qui sont retenus, parce qu'on constate bien aussi que dans les effets des textes que nous produisons, cela dépend sans doute de la sociologie, des acteurs locaux, mais en tout cas, il y a des différences de concrétisation, de portée dans ce que nous faisons.
On sait que la Cour des comptes travaille beaucoup pour le Parlement. Il y a un certain nombre de rapports qui sont commandés tous les ans par le Sénat, par l'Assemblée nationale. Vous, quel regard vous portez sur ce travail en fait avec la Cour qui apporte quand même beaucoup de matière au Parlement? Et est-ce qu'on peut envisager que la Cour travaille davantage pour le Parlement, alors sans aller jusqu'au NAO britannique qui est indépendant mais mis à la disposition carrément de la Chambre des communes, est-ce qu'on peut envisager un renforcement de cette collaboration avec la Cour ?
Cette collaboration, me semble-t-il, s'intensifie à bas bruit et progressivement. Peut-on faire davantage ? Sans doute. Serait-ce bénéfique ? Sans doute. Il n'y a pas a priori à préjuger de l'inverse.
Bon. Sachant que la Cour a son propre ordre du jour aussi, donc oui, elle ne peut pas se consacrer complètement aujourd'hui, en tout
exactement.
Cas.
Exactement. On reviendrait sur un problème de temps qu'évoquait tout à l'heure Madame la sénatrice. Non, une fois encore, moi je crois que le cœur de l'enjeu, c'est qu'il y ait des temps de coordination des évaluateurs et des travaux d'évaluation. Je ne crois pas, sauf si on me demande le contraire, que nous manquions de travail d'évaluation ou d'acteurs de l'évaluation. Vous-même, vous n'avez pas été en peine pour rassembler beaucoup d'acteurs différents qui travaillent sur ce secteur.
C'est sûr, nous en avons beaucoup cette journée.
Voilà, et donc précisément, ça en montre la diversité et la richesse, mais vient un moment où si on veut véritablement démontrer la pertinence de ce travail, que cela puisse avoir des conséquences mesurables, discutables dans le débat public, mais qui soit le fruit d'une meilleure coordination entre les acteurs. C'est cette impulsion que j'ai essayé de donner dans le cadre de ce qu'on a appelé à l'Assemblée nationale le printemps de l'évaluation, pour faire en sorte que, sans qu'il y ait forcément de fusion organique, qui ne serait guère imaginable, mais qu'en tout cas, on se mette d'accord pour rassembler les travaux, en extraire l'essentiel, ce que l'on juge collectivement le plus pertinent, et mener, si je puis dire, un travail de conviction envers l'exécutif, le Parlement et différents acteurs pour faire progresser ce qui en ressort. Donc ce n'est pas le volume qui m'interroge sur sa suffisance ou son insuffisance, c'est plus l'usage que l'on en fait et le partage que l'on en fait entre responsables d'évaluation.
Donc il y a des progrès à faire dans ce sens-là. On parle aussi beaucoup ici, et on va en parler toute la journée, demain encore, des différents stades de l'évaluation. Il y a notamment les évaluations en amont sur les fameuses études d'impact qui sont fournies par l'exécutif quand elles sont... je crois même que c'est lors des conférences en amont de l'étude annuelle du Conseil d'État. Je crois que c'est Gérard Larcher qui avait parlé qui les avait qualifiés parfois d'indigentes. Je crois que c'était les termes qu'il avait employés. Pourquoi, d'une certaine manière, alors dans certains cas indigentes, pourquoi le Parlement ne se montre pas finalement plus dur en refusant d'examiner un texte lorsqu'on lui présente une étude d'impact qui n'est visiblement pas satisfaisante? Est-ce qu'on ne se moque pas un peu de la représentation nationale dans ce cas-là, lorsqu'on fournit une étude d'impact pas au niveau, quoi?
Je ne vois pas ça comme une moquerie. Et par ailleurs, je pense que l'intransigeance est plus aisée quand on est le président d'une chambre d'opposition que d'une chambre de la majorité. Il y a le fait majoritaire. Vous voyez bien que si l'on disait telle et telle étude est indigente, donc on refuse au fond l'examen du texte, on serait dans un rapport de force assez brutal. Il ne faut pas être dupe. L'idée qu'il faille désormais depuis quelque temps, des études d'impact est une bonne idée, mais aucun parlementaire ne sous-estime le fait que ces études d'impact sont plus des plaidoyers de l'intention législative du gouvernement qu'elles ne sont des études d'impact au sens où vous et moi pourrions l'entendre de manière commune, si je puis dire. Et je crois que personne n'est dupe de cela. Alors... est-ce regrettable? Devrait-on s'opposer plus, etc.? Je ne suis pas certain que s'opposer frontalement à ça, les oppositions s'en chargent, et d'ailleurs exigent parfois des compléments d'études. Même le Conseil d'État peut émettre des critiques, puisqu'il est le conseil du gouvernement dans cette fonction, et récemment il ne s'en est pas privé, qui contraignent le gouvernement à faire quelques efforts supplémentaires. Mais le calendrier politique n'obéit pas toujours aux mêmes contraintes que ce que l'on pourrait attendre d'études d'impact. Et puis, tout n'est pas forcément objectif. On a le droit d'avoir une volonté politique, une intuition politique lorsque l'on gouverne le pays, qui n'a pas nécessairement à obéir aux seules analyses ou aux seuls produits d'une étude d'impact qui doit être là pour éclairer la réflexion collective et le débat public. Donc nous avons choisi, au fond, entre le béni-oui-ouisme, si je puis dire, et l'opposition frontale, qui deviendrait tout de suite une crise politique dans notre pays, n'a sans doute pas grand besoin, nous avons choisi un chemin de construction à travers l'ex-impact, qui est un outil qui a commencé petit sur l'impôt sur le revenu, maintenant qui va s'étendre aux collectivités territoriales, qui a vocation aussi à continuer à croître s'il donne satisfaction.
Alors expliquons ce que c'est. C'est un outil qui permet de mesurer les conséquences des amendements, en fait.
Exactement.
Un outil à la disposition des députés.
Des députés qui permet donc de mesurer ce que produirait l'adoption de tel ou tel amendement, notamment donc en matière fiscale ou en matière de dotation aux collectivités territoriales. Donc c'est un outil qui est très apprécié par les parlementaires, qui permet donc de bien mesurer ce que l'on met sur la table et ce qui donc contraint d'une certaine manière le gouvernement de débattre sur des bases parlementaires qui, elles, sont solidement établies. Autrement dit, j'ai envie de dire que nous faisons des études d'impact pour deux, du moins sur la partie qui concerne les amendements et qui forcément doivent déboucher sur des échanges ou des contre-argumentations qui doivent être aussi solides que celles que les parlementaires fournissent. En clair, il y a un plaidoyer gouvernemental, parfois très très bien fondé, ne disons pas le contraire, parfois de manière, sujette à caution. Et à ce moment-là, eh bien, le Parlement fait mieux que le gouvernement pour l'éclairer dans son cheminement et ensuite pour construire ses propres votes sur amendements. Et ça a produit des effets, de sorte que finalement, j'espère que nous pourrons entraîner l'exécutif dans la voie de construction et de progression qui est celle de l'Assemblée nationale.
Dernière question, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Beaucoup de députés, les spécialistes des questions budgétaires, se battent depuis longtemps ou espèrent pouvoir passer peut-être plus de temps à examiner la fameuse loi de règlement, plus de temps que sur le projet de loi de finances. On rentre là dans la période, on est dans la période du PLF. Est-ce que finalement, consacrer plus de temps à l'exercice précédent, l'exercice budgétaire précédent, est-ce que ce n'est pas un exercice là, d'évaluation utile, qui serait utile aussi aux Français en termes de débat public, de savoir comment ont été dépensés et interpeller aussi les administrations sur leur manière et les ministres sur leur manière d'avoir dépensé l'argent lors de l'exercice budgétaire précédent? Est-ce qu'il n'y a pas des marges de progrès de ce côté-là? C'est aussi un serpent de mer, ça, on en a parlé depuis très longtemps.
Ce ne sont pas des marges de progrès qu'il reste, mais des espaces considérables.
Laisse le dire. Oui.
Mais nous avons enclenché une mécanique vertueuse depuis 2017. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle le printemps de l'évaluation. C'est-à-dire qu'en effet, partant du constat qu'on passe 3 mois à faire un budget et 3 heures à débattre de la loi de règlement devant un hémicycle vide, bon, c'était quelque chose qu'il fallait tout de même renverser. Le printemps de l'évaluation, et je veux remercier à la fois à l'époque Mme Amélie de Montchalin, qui s'y est beaucoup investie, le président Woerth, les rapporteurs successifs du budget, M. Giraud, M. Saint-Martin, et pardon pour ceux que j'oublie, mais se sont beaucoup investis là-dessus pour faire en sorte qu'en effet, on travaille un programme d'évaluation. Dans ce cadre, les rapporteurs spéciaux, qui sont en amont, travaillent sur ce qu'a produit l'aval après le vote. Ensuite, chaque ministre est auditionné et doit rendre compte de l'exécution de ce qui a été voté avant même que l'on arrive sur l'examen à proprement parler de la loi de règlement. Donc il me semble que nous avons fait des progrès, j'ai envie de dire de géants en peu de temps, mais nous avons conscience qu'il nous faudrait encore chausser des bottes de 7 lieues. Mais enfin, ça progresse très sérieusement. Et je pense qu'il faudra un jour un acte fondateur de l'ampleur de ce qu'a été la loi organique des lois de finances de 2001 pour en effet rétablir un équilibre qui fasse que non seulement on passe du temps à décider ce que l'on va dépenser ou ce que l'on va percevoir s'agissant de recettes, mais pour mettre au clair ce que l'on a fait de ce que l'on a antérieurement voté. Alors oui, c'est du travail qui progresse, mais il va falloir un nouvel acte fondateur pour que l'on passe de cette démarche impressionniste à quelque chose qui soit plus clairement démocratique et qui répond à l'évolution du travail parlementaire et à la demande des citoyens.
Merci Richard Ferrand d'avoir clôturé cette matinée des rencontres des acteurs publics ici au Conseil d'État et en direct sur Acteurs Publics TV. Merci Monsieur le Président.
Merci de votre accueil.
On se retrouve en direct à 14h, ici même dans la salle d'Assemblée Générale du Conseil d'État, avec notre débat sur la galaxie des évaluateurs, avec comme intervenant Michel Papalardo, rapporteur général à la Cour des comptes, François Sénèrse, président adjoint et rapporteur général de la section du rapport et des études du Conseil d'État, et Nicolas Bocquet de l'Institut Montaigne. À tout à l'heure, merci beaucoup.